Quand l'île-dieu mettait la mer en bois.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Épisode 5, le quartier des usines. Dans l'épisode précédent, on a entendu comment les confiseries et les ateliers de conservation sont devenus les usines de l'île-dieu. On est fin du 19e, début du 20e siècle. Les usines poursuivent leur développement ?
L'usine Amieux est la seule qui soit conçue comme une usine dès l'origine. Nous avons le témoignage de M. Gaston Demoulin, jeune citadin apparenté avec la famille Amieux, qu'il a décrit dans son récit « Une saison à l'île-dieu » en 1893.
À cette époque, l'usine Amieux était le plus vaste et le plus neuf des établissements similaires de l'île. Et elle avait vraiment grand air, avec ses hauts bâtiments, ses façades rigoureusement blanches et ses hautes cheminées de briques.
Et il précise aussi
« Il y avait dans les bâtiments de cette vaste usine énormément de souris, tant que l'on tendait des pièges pour en prendre et en détruire le plus possible. »
Waouh !
En 1910, l'entreprise Bouvet-Flon réunit les deux bâtiments dont elle est propriétaire et transforme la petite confiserie du quai de la Chapelle en un bâtiment moderne et spacieux, conçu selon les plans de ses usines continentales.
En 1925, après environ 35 années d'exploitation, Saupiquet quitte les anciennes bâtisses et les hangars de bois du quai de la Chapelle pour emménager dans une usine neuve à quelques encablures seulement de sa première implantation, place du Pu, entre le quai de la Chapelle et les Beaucires. L'architecte nantais Henri réalise les plans de la nouvelle usine, composée de grandes halles à l'ossature métallique où sont répartis les différents postes de fabrication. Le grand enclos fermé de murs qui entourait l'usine Amieux et formait comme une enclave dans le quartier des Beaucires a aujourd'hui disparu.
Quai de la Chapelle, les grandes ouvertures cernées de briques des hangars et la cheminée aujourd'hui tronquée de l'usine Bouvet-Flon domine encore les petites maisons blanches de cette partie de Port-Joinville que l'on appelle désormais le quartier des usines. Et sur le bord de mer, après l'actuel poste, quand on quitte Port-Joinville, la silhouette rectiligne des bâtiments Saupiquet, montés en parpaings de béton, tranche avec les contours courbes de la petite plage.
Mais dans les usines, les équipements restent très sommaires. Pourtant, la sardine est un poisson délicat qui doit être manipulé avec soin. C'est un travail de précision ?
C'est vrai. L'équipement des premières conserveries ne constitue pas, pour les investisseurs, une mise de fonds importante. D'autant que dans ces établissements, la plupart des tâches étaient manuelles. Dans les conserveries, la plupart des opérations sont assurées par des femmes qui se trouvent largement majoritaires dans l'effectif des usines. Hommes et femmes ne sont pas affectés aux mêmes tâches. À chaque étape de fabrication, les ouvrières et les ouvriers doivent faire preuve d'application, de savoir-faire et de technicité.
Toujours M. Gaston Demoulin, témoin de son époque, décrit le travail de la sardine chez Amieux en 1893.
Sitôt la sardine arrivée à l'usine, les paniers étaient vidés de leur contenu et le poisson étendu sur une aire de ciment pêle-mêle en une couche d'environ 5 cm et salé largement avec du sel marin obtenu en franchise.
Les femmes arrivaient alors chacune avec un petit banc qu'on leur fournissait, s'asseyaient au bord du tas et commençaient les tétages. Besogne facile mais à laquelle il faut être habitué pour la mener à bien rapidement.
Ensuite, on mettait la sardine à tremper dans des grands bacs remplis de saumure, où elle demeurait ensuite une demi-heure, trois quarts d'heure ou deux heures suivant leur grosseur.
Ensuite, elles étaient rangées sur des grilles légères et spéciales, la tête en bas pour s'égoutter et sécher, au soleil lorsque le temps était favorable, à l'abri sous le hangar si le temps était humide.
Enfin, les sardines sur leurs grilles étaient plongées dans l'huile bouillante, cuites ainsi en une minute ou deux, mises en boîte, huilées et les boîtes fermées.
À cette époque, les boîtes étaient soudées à la main.
Enfin, les boîtes fermées étaient passées à ébullition, puis séchées dans la sueur de bois et mises en caisse de sang, quel que soit leur format.
Le texte de M. Demoulin suggère l'habileté et la dextérité dont doivent faire preuve les ouvrières. Mais il ne parle pas de qualification. Pourtant, certaines étapes demandent une compétence précise. Citons par exemple quelques opérations où le savoir-faire est mis en évidence.
D'abord, les tétages, l'emboîtage, le huilage sont des manœuvres délicates. Les gestes des femmes doivent être précis et rapides, mais également habiles et légers pour ne pas abîmer la sardine.
Pendant les tétages, les sardines sont travaillées une à une par les ouvrières équipées d'un petit couteau bien tranchant. Il s'agit de décapiter le petit poisson d'un mouvement brusque et rapide afin que les intestins se détachent avec la tête.
D'autres étapes nécessitent des compétences qui ne peuvent être acquises que par l'expérience.
Dès réception, les sardines doivent être étendues en couches aussi peu épaisses que possible pour éviter que le poisson ne s'échauffe. Si on entasse la sardine, elle se presse, s'amollit, s'écrase et risque de se perdre.
Citons aussi le salage et le saumurage. Les sardines étêtées sont versées dans des bacs à saumure contenant une dissolution de sel. Il s'agit de bien déterminer le degré de saturation du bain et le délai de marinage en saumure, car il conditionne la conservation du poisson pendant le processus de fabrication. Le bain de saumure a un effet antiseptique et confère aux sardines la consistance nécessaire pour subir les manipulations suivantes.
Le séchage. Le poisson sèche à l'air libre, au soleil ou dans un endroit bien aéré. Pour arriver à de bons résultats, le temps idéal est une brise légère qui active l'évaporation de l'eau et permet à la sardine de s'affermir et de sécher uniformément. Si le séchage est imparfait, le poisson peut fermenter et gâcher la conserve. Dans les premières conserveries, l'appréciation du degré de séchage du poisson se fait à la vue et au toucher, ce qui requiert, de la part des ouvrières, une grande expertise.
Et aussi, le soudage et le bouillotage, effectués par des ouvriers qualifiés, sont également des opérations importantes, voire essentielles, puisque le sort des conserves en dépend. Elles ont pour but d'assurer la conservation des produits fabriqués.
On peut imaginer que les conditions de travail sont plutôt pénibles.
Dans ces usines rudimentaires, elles sont en effet très rudes. L'humidité est prégnante et aucun poste n'est confortable. Pendant les tétages, par exemple, les femmes pliées en deux sur de petits tabourets se trouvent dans une posture fatigante et difficile. Et leurs jupes qui traînent à terre sont vite souillées. Mais ce mode de traitement préserve les sardines qui ne tombent pas de haut dans les paniers. Alors on s'y tient.
Les ouvrières qui s'occupent de la mise en saumure, elles, sont toujours mouillées. À la cuisson, la chaleur est très élevée et les brûlures par projection d'huile sont fréquentes. L'eau, le sel, l'huile sont partout et poissent tout. Les femmes finissent la journée souillées de la tête aux pieds. Et quand la pêche a bien donné, les journées s'allongent.
Dans l'atelier des ferblantiers, le sort des ouvriers soudeurs n'est pas plus enviable. Le témoignage du docteur Gélineau en 1885 en dit beaucoup. Il décrit d'abord les étapes dans son rapport sur une intoxication survenue chez Bouvet-Flon.
Pour souder, on fait un mélange de un tiers d'étain et deux tiers de plomb que l'on met à fondre ensemble dans une grande cuve en fonte sur un fourneau à feu très vif de charbon de terre.
Dans la salle où se fait ce travail, il y a 10 à 30 ouvriers travaillant à côté les uns des autres, rangés par groupe de 3 autour d'une table garnie de zinc.
Les hommes étant les uns derrière les autres à se toucher, pour ainsi dire, ils ont donc à souffrir d'une température extrêmement élevée.
Il souligne le manque d'aération et de ventilation des salles, qui occasionne des accidents consécutifs à l'absorption du plomb, de l'oxyde de carbone ou de l'acide carbonique.
Ces accidents saturnins qui les affligent fréquemment se traduisent par des étourdissements, des céphalagies et des vomissements fréquents.
Il observe également que
la construction de tous les ateliers n'ayant pas été surveillée au début de cette industrie, plusieurs n'ont qu'une seule ouverture en haut de la salle. Leur grandeur n'est pas suffisante pour autant d'ouvriers, l'air n'est pas renouvelé, et il ne se peut rien imaginer de plus désagréable et de plus suffocant que l'air qu'on y respire.
Les équipes en question, atteintes de saturnisme à des degrés divers, furent temporairement remplacées par des équipes nantaises, qui, elles, demandèrent d'ailleurs une ventilation suffisante et permanente avant de commencer.
Et pourtant, les conserveries ne rencontrent aucune difficulté de recrutement. La main-d'œuvre est même abondante.
C'est vrai. La main-d'œuvre afflue dans les usines. Et, à la belle saison, la majorité des femmes de l'Île-Dieu en capacité de travailler y travaillent. On peut estimer qu'à la fin du 19e siècle, 300 à 350 femmes sont régulièrement embauchées par les usines de conserveries, pendant des saisons de production qui s'échelonnent de mai à novembre, selon les années.
Les conserveries de poissons représentent pratiquement le seul débouché salarié pour les femmes de l'île. Elles mettent en boîte annuellement de l'ordre de 240 000 kg de sardines et 160 000 kg de thon, dont les conserves sont expédiées à Nantes par caboteur. La pêche est alors devenue la principale industrie de l'île. Et pendant la belle saison, la pêche à la sardine et celle du thon, conjuguée avec le travail des femmes dans les usines, emploie les deux tiers de la population insulaire.
On se retrouve au prochain épisode pour la suite.
Quand l'île Dieu mettait la mer en boîte.
Avec les contributions de
Recherche, documentation, texte, Pascal Cariou.
Voix, Sylvie Monlahuc.
Et Clément Bertrand.
Adaptation, réalisation, Maya Tubiana-Perro.
Musique, Clément Bertrand.
Design sonore et mixage, Philippe Turbet.
Moyens techniques, Neptune FM. Une production rendue possible par les services culturels et patrimoine de la municipalité de L'Île-Dieu. Produit par Aerials. Réalisé 100% à L'Île-Dieu.